Coucou à toutes et à tous et bienvenue dans cet audio consacré à la loi divine, mais surtout vu selon un miroir comme ça qui reflèterait nos responsabilités, un angle de vue que je trouvais très intéressant vu de l'actualité forcément. D'ailleurs à ce sujet j'espère que vous allez bien. Moi ici au top comme d'habitude et comme d'habitude je suis très heureuse de pouvoir partager mes découvertes avec vous. C'est parti. Alors en ce qui concerne les 13 mères originelles de Jamie Sams, le mois de mars nous permet d'accepter la vérité. Et cela est très fort finalement car cela fait de nous des gardiennes de la loi divine, une loi qu'on ne peut pas tout à fait comprendre car elle dépasse en fait nos capacités humaines de compréhension, mais une loi en laquelle nous pouvons avoir confiance pleinement ou encore à laquelle on peut décider d'offrir cette confiance parce que tout simplement on peut le voir avec le contre qui l'illustre parfaitement bien. C'est une loi qu'on ne comprend pas, oui, mais qui apporte la guérison. Et parce qu'il y a guérison, justement, on peut en déduire que c'est la vérité la plus juste qui soit, finalement. En être la gardienne, c'est assumer pleinement notre responsabilité à être intègre, fidèle à nos valeurs. C'est être capable d'être responsable de notre comportement, de nos paroles, de nos mots, en fait, à chaque instant, ou en tout cas, d'assumer les conséquences de nos actes lorsque ceux-ci blessent. Parce que, eh bien, on peut se trouver tout à la fois tantôt à la place de celle qui pèse la vérité, donc la mère de Mars, ou aussi bien à la place des femmes jugées dans ce conte. Nous avons à la fois la responsabilité d'agir par intégrité, et la responsabilité parfois de faire face à des mensonges et d'en extirper finalement un maximum de vérité pour aider à protéger des gens ou des enfants qui n'ont pas été dans certaines circonstances tout à fait respectés. C'est un concept très important car c'est au cœur de nos relations que va se jouer cette égalité, cette recherche d'égalité en tout cas, et le maintien ensuite de cette égalité dans les phénomènes du quotidien, de nos vies de tous les jours. Dans le conte, la gardienne de la vérité doit rendre un verdict, on l'a vu. Elle s'aide de la roue de la médecine pour trouver la vérité, pour avoir des informations de chaque orientation de la roue, donc de chaque essence un petit peu. Et la vérité des actes, mais aussi la vérité de leur cause. C'est très important. Donc avoir comme ça une vision plus globale de ce qui se passe. Donc à la fois savoir qui a fait quoi, mais surtout pourquoi cela a été fait. Et ce qu'elle découvre dans ce cas peut tout à fait être généralisé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un manque de respect vis-à-vis de l'autre, qu'il y a un mensonge, un crime, et donc un manque à ce que chacun représente l'égal de l'autre, eh bien c'est toujours à cause de l'activation d'une blessure qui a été faite dans le passé, ou je devrais plus justement dire plutôt une réactivation d'une blessure qui n'a jamais guéri. À la différence de la loi humaine, la loi divine amène une réparation totale. Réparation aux victimes et réparation aux fauteurs de troubles aussi, puisque la condamnation, finalement, c'est la guérison. C'est la guérison des blessures. La mère de Mars oblige les femmes du conte à retrouver leur responsabilité totale en se guérissant. Et finalement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça me fait totalement rêver quand on pense à notre justice, la justice de notre État, qui ne fait que mettre à l'écart ceux qui finalement ne peut que creuser une blessure comme une blessure de rejet mortellement. Concernant les blessures d'ailleurs, je vais vous orienter vers le livre absolument culte des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, je ne sais plus le titre exact, ou en tout cas d'aller sur son site internet parce qu'elle écrit beaucoup 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 de choses sur l'ego notamment et sur la différence qu'il y a entre agir et réagir. Agir, c'est ce qui provient d'une volonté consciente, sage, et réagir, c'est plutôt une volonté de l'ego pour nous empêcher de souffrir en fait d'une de nos blessures qui n'a pas été guérie. Et c'est ce qui se passe hein, finalement pour les femmes du conte. Elles n'ont pas conscience de faire du mal parce que finalement leur ego leur demande d'agir ainsi pour les protéger eh ben, d'une souffrance, pour ne plus qu'elles souffrent dans le futur. Mais malgré tout, ça ne justifie pas assez leur agissement puisque leur agissement a blessé. Ce qui signifie que finalement on va comme ça se retrouver peu à peu dans un cycle infernal où une blessure qu'on a va en créer une autre chez quelqu'un d'autre, etc. Donc une blessure va en créer une autre, qui va en créer une autre, qui va en créer une autre, etc., etc. On se retrouve totalement coincé. Et la loi divine est la seule loi qui va pouvoir permettre de rompre ce cycle. Et finalement, cette loi est très très simple car elle nous dit simplement que nous sommes responsables. Alors, bien que ce soit l'ego qui ait réagi, pas agi mais bien réagi, la personne est tout à fait responsable de ses actes. Elle est responsable de ses actes, hein, mais aussi de ses mots, de ses paroles. Elle est donc responsable de ses propres blessures et surtout elle est responsable finalement de ne rien avoir fait jusque-là pour les guérir. Et c'est vraiment une notion très très importante car on ne peut plus comme ça essayer de se cacher derrière notre ego ou notre inconscient ou même bah, justement une blessure. Hein. Nous sommes responsables de la guérison de notre passé et voire même, mais ça c'est encore autre chose, de la guérison de toute notre lignée. Et il s'agit véritablement de l'énergie de ce moi qui nous parle en profondeur de responsabilité, de pouvoir personnel. Et nous ne pouvons pas nous retrancher comme ça derrière le fait d'avoir donné tout pouvoir à notre ego et penser qu'il ne va rien nous arriver dans nos vies pour nous faire reprendre les rênes. C'est un peu le contraire, c'est qu'il va se passer quelque chose forcément à un moment donné qui va nous secouer. On peut pas comme ça se dire qu'on va tout refourguer et ben soit à nos parents ou à notre mari, compagnon ou même à un ami. Et qui va faire les choix pour nous parce que bah, c'est vraiment trop pénible, trop trop important, trop angoissant, et puis nous la couler douce comme ça, en suivant le fleuve de la vie, tranquille ou pépère. Non, ça c'est sans compter sur la loi divine qui va elle tout faire, quitte à nous bousculer parfois vraiment très violemment, pour nous faire reprendre notre pouvoir. Donc finalement, on peut peut-être se dire que c'était la destinée que ces femmes agissent comme cela, qu'elles soient blessées, qu'elles agissent selon cette blessure pour pouvoir être guéries. Voilà. Ça fait réfléchir. Alors, justement, hein, on voit très fréquemment comme ça un petit peu partout dans les univers de guérison, New Age, etc., etc., où on nous dit reprenez votre pouvoir. En anglais, on retrouve souvent claim your power, mais le pouvoir personnel comme ça peut rester vraiment une notion très très vague et puis encore plus la méthode pour laquelle on veut la retrouver parce que oui moi aussi hein, je veux bien reprendre mon pouvoir etc. Ouais je suis tout à fait d'accord avec vous mais on fait comment? Alors personnellement je pense qu'en tant que femme nous avons la chance de vivre tous les mois une période sombre, hein, la période de saignement, qui nous invite comme ça à plonger dans nos profondeurs, dans notre inconscient, dans nos blessures, et cela tous les mois, jackpot. Donc encore et encore, encore et encore, encore et encore, comme ça, parce qu'il y a toujours des choses à guérir, des choses anciennes vers lesquelles on va de plus en plus, comme ça, comme une tête foreuse, chercheuse, on va creuser, ou alors beaucoup de nouvelles choses qui se rajoutent parce qu'on n'a pas tout guéri, et puis que voilà, finalement, on rajoute encore des couches. Ah oui, entre parenthèses, bah du coup, j'ai créé un atelier en ligne qui s'appelle La Porte Noire et qui permet de faire un travail en conscience sur plusieurs plans, un travail de ce type. Et du coup, je voulais faire un petit coucou spécial bah, à toutes les filles qui m'écoutent et qui ont suivi l'atelier parce que bah, c'était pas si facile que ça. C'est clairement un travail voilà, pas facile du tout à aborder et encore moins à aller jusqu'au bout. Bref, en tout cas voilà, c'est un des moyens de retrouver notre pouvoir personnel en acceptant eh ben, toute cette période du mois et en s'y plongeant, donc en l'acceptant et puis en y allant vraiment en conscience. Mais on peut aussi aller en conscience et en comprenant ce qu'est exactement le pouvoir personnel, donc en cherchant ce que signifie ce concept d'une façon plus peut-être rationnelle, et puis aussi en soignant notre chakra sacré, on va voir ça un petit peu plus loin. Alors, commençons par comprendre ce que est justement le pouvoir personnel. Alors, le pouvoir personnel, c'est un pouvoir interne, hein, comme on le comprend un petit peu. C'est une espèce de confiance, une sérénité, une essence invisible mais forte. Il y a vraiment quelque chose de fort et de puissant derrière ça, mais quelque chose d'autoritaire et qui est de toute façon plus fort que le pouvoir externe finalement, parce que du coup, on ne peut pas nous l'enlever, on ne peut pas le perdre si facilement que ça. Parce que du coup, forcément, le pouvoir externe, c'est quelque chose de matériel, c'est un gain matériel, ou ça peut être aussi un accomplissement extérieur, une position sociale, etc. Mais quelque chose qu'on peut nous enlever parce que c'est dans l'avoir. Reprendre son pouvoir personnel, finalement, c'est donc reprendre toute autorité sur sa vie, sur ses choix, et ne plus jamais laisser les autres décider à notre place. Cette affirmation-là que je vous dis va impliquer forcément que d'autres ont eu ou ont pu à un moment donné posséder notre pouvoir. Alors, la question qui va peut-être surgir, c'est très bien, mais ils nous l'ont volé ou comment ça s'est passé, etc. Eh bien non, c'est impossible en fait de prendre le pouvoir personnel de quelqu'un comme ça en passant, hein. Ça se passe pas comme ça, heureusement d'ailleurs. Ça se passe pas comme ça à cause du libre arbitre. On ne peut pas forcer une personne, on ne peut pas voler comme ça. En fait, c'est nous qui allons donner aux autres notre pouvoir. Alors, ça peut être fait de façon consciente, mais ça peut être aussi fait de façon totalement inconsciente. Souvent, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on va faire avec beaucoup d'innocence, en croyant que les personnes devant nous, voilà, savent mieux que nous ou agissent mieux que nous. Et en plus, et ben plus on va le penser, plus et ben nous, on va s'estimer encore plus incapable de faire quelque chose ou de choisir sans nous planter, en fait. On va être carrément persuadé que nous, si on va faire le choix, ben ça va être dans l'erreur. Et alors, plus comme ça, on va penser, et plus alors, on va donner volontairement tout pouvoir à l'autre. Donc là aussi, on va se retrouver encore dans un cercle vicieux. Alors, on va donner notre pouvoir aux autres en pensant qu'ils feront mieux que nous, mais aussi, par exemple, pour se débarrasser tout simplement du poids des responsabilités, ce qui est un petit peu la même chose finalement quand on y réfléchit, ou alors on va pouvoir le donner par intimidation. En éducation, par exemple, on va souvent nous apprendre à ne pas remettre en cause les figures d'autorité, surtout voilà, dans les éducations de vieille école, traditionnelles, etc. Et du coup, j'ai envie de vous parler d'un petit témoignage personnel comme ça, hein, qui concerne en fait mes accouchements. Alors, lors de mon premier accouchement, j'étais jeune et innocente, et je me suis totalement fiée aux sages-femmes, même si j'avais beaucoup préparé, beaucoup lu, etc. Et j'ai un petit peu totalement déléguée, et ce sont elles qui ont pris toutes les décisions pour moi. Et à la fin, c'était bien simple, hein, elles ne me demandaient même plus, et elles se contentaient d'agir. Ça a été une véritable catastrophe, un truc hyper traumatisant, bon, encore que ça va. Mais en tout cas, pour mon deuxième accouchement, j'ai décidé de prendre les choses en main. Alors, en amont, j'ai briefé à fond mon compagnon parce que je savais maintenant que je ne serais pas tout le temps capable de dire non, surtout face à la douleur, à la fatigue, etc. Dire non, c'est faire monter notre force comme ça, donc pouvoir la chercher, la faire remonter, ça demande de l'énergie. Et je savais maintenant que je n'aurais pas tout le temps cette énergie possible. Alors dès que je commençais à murmurer non, etc., je l'avais briefé pour qu'il le dise haut et fort, non, vous la laissez tranquille, etc. Et cet accouchement était beaucoup plus respectueux pour moi, beaucoup plus facile, quasiment sans problème. Sans problème pour bébé, hein, d'ailleurs, parce qu'en fait, mon premier enfant avait carrément dû être sorti aux cuillères, hein, vu que j'étais tellement endormie que je ne pouvais même plus pousser. L'horreur. J'ai mis en plus 2 mois à me remettre de mon épisio, enfin, etc., etc., le truc. Et pour le deuxième, eh ben, alors là, c'est totalement l'inverse. Aucun souci, j'ai refusé la péridurale. Voilà, je ne conseille pas forcément à tout le monde de faire comme ci ou comme ça, etc. Moi, je l'ai refusé parce que du coup, c'était très traumatisant pour moi de ne plus avoir les sensations pour aider mon enfant, pour le sortir, pour être active, en fait. Et puis, j'ai aussi refusé, pour mon deuxième accouchement, qu'on me change de position. Avant, on me conseillait, mettez-vous comme ci ou comme ça, etc. Là, non, j'ai accouché à quatre pattes, comme si j'étais dans les bois. Et puis, ah oui, en plus, j'ai été totalement déchirée. Et par contre, là, bizarrement, eh ben, c'était naturel. C'était un déchirement. On disait tout le temps qu'il valait mieux une épisio, que ça soignait mieux, etc. Ben, l'épisio, j'ai mis 2 mois à m'en remettre. Et la déchirure, clairement, une semaine, c'était réglé. Je n'avais plus mal. Et en plus, c'était une des pires qui pouvait arriver parce que c'était, voilà, dans la mauvaise direction, en fait. Ici, ce que je veux dire, c'est que je veux pas du tout remettre en question le travail ou le savoir-faire des sages-femmes, mais simplement ce savoir-faire est un savoir-faire général qui changera peut-être totalement dans 10 ou 20 ans, comme il a déjà changé par rapport à il y a 100 ans, qui va évoluer avec les futures découvertes scientifiques, etc., etc. Moi, c'était mon choix, j'ai préféré écouter mon corps et ses spécificités parce que lui seul pouvait les connaître. Donc j'ai pris confiance en mon corps finalement. Et pour cela, j'ai dû m'imposer et reprendre mon autorité et dire non. Et en osant comme ça dire non et en choisissant pour moi, et ben du coup, ça s'est mieux passé, mais ça se trouve, c'était aussi uniquement parce que c'était le deuxième, que j'étais mieux préparée, que je savais, etc. Mais je pense aussi que c'était d'avoir totalement les rênes en main et de choisir qui a fait que je suis passée du global, des choses qui fonctionnent peut-être pour la majorité des personnes, à quelque chose qui fonctionnait uniquement pour moi en tant qu'individu. Donc ce pouvoir personnel, peut le comprendre vis-à-vis des mots comme ça qui sortent. Et on parle de puissance, mais aussi de responsabilité. Et ça, la responsabilité, c'est véritablement la clé pour agir en chaque instant en conscience. Et donc finalement avec beaucoup plus de sagesse. C'est aussi s'assurer comme ça de choisir ce qu'on veut ressentir, comment on veut se sentir, et ne pas attendre des autres qu'ils agissent d'une façon telle et telle, d'une façon particulière, pour nous faire ressentir ainsi. Les valeurs ou les attributs, hein, du pouvoir personnel sont en effet la confiance en soi, l'estime de soi, enfin bref, tout ce qu'on ressent envers soi-même en fait, et la façon dont on émet ce ressenti dans le monde. Donc il y a vraiment quelque chose d'émotionnel là-dedans, et puis c'est ce qui va faire cette espèce d'émission émotionnelle, ce qui va faire que certains, bah, on va avoir une autorité naturelle, par exemple. Et c'est aussi cette émission que l'on envoie qui va déterminer la façon dont les autres vont nous apercevoir, donc plutôt confiant, fort, ou alors plutôt vulnérable. Et malheureusement, justement, cela va inciter, eh bien, certaines personnes à obtenir notre pouvoir, comme s'ils avaient finalement une espèce de détecteur comme ça à vulnérabilité ou à personne un petit peu victime, parce que du coup, ben, eux-mêmes ont besoin, manquent de pouvoir, et au lieu de le chercher à la juste place à l'intérieur, ils vont la rechercher à l'extérieur, et notamment en utilisant le pouvoir des autres, tout simplement. Donc là aussi, ils ne vont pas le voler, je le répète, ils ne peuvent pas, mais c'est simplement par la relation, par l'intimidation peut-être, ou par rapport à leur position sociale, qui vont attendre de nous que on leur offre. Voilà. Alors, j'ai envie d'ajouter aussi que c'est vraiment indéniable que la reprise comme ça, le retour de nos responsabilités améliore nos vies, mais aussi nos relations, même si ça paraît pas comme ça, même si on a l'impression que du coup ça va être compliqué, ça fait 10 ans que cette personne s'occupe bah, par exemple de notre argent ou s'occupe bah, de la propriété, et que si on va venir le récupérer comme ça, on va se mettre bah, tout simplement cette personne à dos ou etc. Mais c'est un fait, la prise de nos responsabilités ne va pas forcément abîmer nos relations, mais va les améliorer. Et améliorer notre vie. Alors, je sens déjà que dans votre tête, vous allez me dire, oui, d'accord, ça va améliorer notre vie ou notre prise de décision, mais il y a aussi tout ce qui est désagrément de la vie du quotidien, tout ce qui est destin, sur lequel ben, nous, on n'a aucune influence. Et forcément, je suis d'accord. Il y a le destin, il y a la part du destin, mais dans la très grande majorité de ce qui nous arrive, c'est pas la part du destin qui est vraiment minoritaire. La majorité, c'est l'ordre de notre libre arbitre. Le destin, c'est vraiment un vecteur hyper minoritaire au quotidien. Il y a bien sûr des grands moments comme ça, du destin qui frappe, etc. Mais tout le reste, 90%, allez, 80%, c'est notre libre arbitre. Le grand point fort de notre pouvoir personnel, en dehors de tout ce que j'ai pu dire, son grand, grand point fort, c'est que c'est une réserve infinie d'énergie. C'est à l'intérieur de nous, c'est pas à l'extérieur dans la voir, etc. Et c'est vraiment l'opposé des pouvoirs externes. C'est quelque chose qui est en nous et dont on a un accès total et infini. Mais par là, attention, hein, avoir de l'autorité et de l'estime de soi, ce n'est pas mettre un masque comme ça d'extraverti pour faire semblant d'être jovial, faire semblant d'être sûr de soi, faire beaucoup de bruit. En fait, c'est ressentir la plénitude et cette réserve d'énergie à l'intérieur pour agir vrai en fonction de cette loi divine, en fonction de cette énergie et en conscience. Et cela va aussi nettement dépendre de notre chakra qui correspond à ce pouvoir personnel. Donc là, on va peut-être un petit peu rentrer dans la façon de justement améliorer notre estime de soi ou d'augmenter la façon dont on peut puiser dans cette ressource infinie. Le pouvoir personnel, du coup, va vraiment passer par un chakra en particulier, le chakra jaune. Alors, pardon, c'est le troisième chakra, Manipura, qui est celui que j'appelle du coup le chakra jaune parce qu'il est très très solaire, très jaune d'or et je fonctionne énormément par la couleur, voilà. Et lorsque ce chakra est sain, qu'il est équilibré, etc., on va avoir plusieurs concepts dans notre vie, plusieurs thèmes qui vont en dépendre. Le premier thème, en tout cas, c'est nos limites. Avec un chakra équilibré, nos limites vont être claires et elles vont être respectées. Mais ça va être aussi nous qui allons respecter les limites des autres. On ne va pas aller chercher comme ça chez les autres plus de pouvoir que nécessaire pour combler un manque. En cherchant à accaparer à ce que les autres nous donnent l'énergie dont on a besoin. Non, on va être hyper respectueux. On va être aussi capable de faire à chaque instant des choix en comprenant le pouvoir qui réside en fait dans nos décisions. C'est pas simplement faire juste ou faux, mais c'est pouvoir décider. Avec un chakra équilibré, on va aussi avoir confiance en ses instincts, en son instinct et en son intuition. On va comprendre aussi que, eh bien, c'est se discipliner, que finalement, se discipliner et avoir des responsabilités vont amener à nous sentir plus libres. Alors, ça peut paraître très très paradoxal, mais finalement, pas tant que ça, parce que du coup, le sens des responsabilités, ça va amener de la discipline dans le sens de structurer notre temps, notre façon de faire. Et cette discipline qui va être exercée au quotidien va amener la confiance en soi que l'on acquiert de façon très naturelle par l'expérience, par la redondance, mais aussi parce que du coup, en fait, la confiance en soi va nous permettre de nous libérer de l'avis des autres, ou de leurs conseils, ou de leurs actions pour qu'on se sente mieux, etc. Tout simplement, on va se libérer. À force d'avoir notre force intérieure, à force d'augmenter cette confiance, on va pouvoir être libre des autres. Le chakra manipura, c'est aussi celui de l'enfant intérieur. Et je dois dire que je me suis énormément laissée porter par les énergies du moi pour la réalisation du collage précédent et de la méditation guidée, qui ont pris justement pour thème la jeune fille. Et a priori, j'ai pensé que je faisais un petit peu fausse route comme ça, parce qu'il n'y avait rien qui n'avait été dit là-dessus sur le compte de Mars. Rien du tout. Mais j'ai décidé de me faire confiance et de partager tout ça. Et puis là, justement, en approfondissant le thème du pouvoir personnel, je réalise que cette intuition était dans le juste. Car pour être pleinement connecté à son pouvoir personnel, il est nécessaire de se reconnecter avec son enfant intérieur, sa naïveté, sa capacité joueuse, son émerveillement. Alors justement, je vous disais que qu'on donnait notre pouvoir par innocence, et puis là maintenant je vous dis, bah oui, mais finalement il faut quand même être un peu naïf et puis développer notre enfant intérieur. Je suis d'accord, mais là c'est plutôt la naïveté vis-à-vis de l'émerveillement du monde, plutôt que la naïveté dans la confiance totale qu'on donne à quelqu'un. Et puis du coup, finalement c'était aussi une leçon pour moi, parce que c'était la question de savoir ou non jusqu'où je pouvais aller faire confiance en mon intuition, parce que je le fais un petit peu dans la vie de tous les jours, sur la liste de courses, sur la direction à prendre avec ma voiture, sur mes choix des fois, mais des choix très anodins, la façon de s'habiller, etc. Des choix un petit peu plus forts, par exemple acheter telle maison ou non. Mais là, c'était dans le partage, dans chercher aussi à vous plaire, vous apporter quelque chose qui puisse répondre à vos attentes. Et du coup, j'ai quand même fait confiance en mon intuition. Donc c'était aussi finalement une petite leçon pour moi, pour voir si j'en étais capable. Et parce que du coup, ça me permettait comme ça d'assurer, maintenant que je le vois et que je comprends la relation qu'il y a entre tout ça, tout simplement, du coup, j'ai une augmentation de l'estime de soi, donc une augmentation de mon pouvoir personnel, juste parce que j'ai décidé de me dire, bon, tant pis, allez, je suis, mon intuition, je la connais, je doute quand même un petit peu d'elle de temps en temps, mais bon, allez, on y va, c'est pas grave. Alors du coup, pourquoi, quel est le lien entre l'enfant intérieur et le pouvoir personnel? Eh bien, parce que en tant qu'enfant ou adolescent, on a pu avoir conscience de notre manque de pouvoir, peut-être plus qu'à l'époque où on est adulte. Parce que quand on n'a pas assez de force, ou quand on n'a pas la taille pour voir par la fenêtre, ou pour monter dans le grand 8 par exemple, eh ben, les adultes nous paraissent comme des êtres qui ont, eux, tous les pouvoirs. Et puis quand on avait enfin la taille adéquate, quand on pouvait enfin monter dans ce grand 8, eh ben on se sentait puissant. On avait comme ça accès à cette source d'énergie qui nous faisait monter ce pouvoir avec une joie. On se sentait fort, on se sentait puissant d'un coup. C'était comme si on récupérait quelque chose qui nous avait été enlevé et qu'on attendait depuis longtemps. Donc il y avait une fierté, une montée d'estime de soi, une montée en puissance qu'on pouvait avoir quand on était enfant, et que comme ça, on commençait à monter l'escalier vers l'âge adulte. Donc en mars, renouer avec notre jeune fille, comme ça, c'est aussi reprendre contact avec cette soif de retrouver tout notre pouvoir, d'avoir enfin toutes nos responsabilités, de gérer comme on veut notre vie, notre emploi du temps, ce qu'on ne pouvait pas forcément faire du tout en tant qu'enfant. On nous envoyait à l'école, on nous récupérait de l'école, on nous disait maintenant fais tes devoirs, maintenant c'est le moment de manger. Et là, on avait conscience que du coup, on n'avait pas le pouvoir et que c'était les figures d'autorité qui l'avaient. Maintenant, il est question de se demander si on a bien tout récupéré. C'est aussi l'occasion de se découvrir eh ben, les pouvoirs qu'on a déjà et que, comme lorsque nous étions petits et qu'on découvrait qu'on pouvait avoir un pouvoir eh ben, sur nos parents en faisant comme ça, tomber 40 fois le même jouet, ou que du coup on avait du pouvoir sur nos animaux de compagnie. Et ça vraiment sans arrière-pensée, hein, pas chercher à embêter les autres ou à me leur manquer de respect, mais juste dans l'émerveillement total du pouvoir qu'on a déjà sur nous-mêmes ou sur le monde qui nous entoure, mais alors toujours voilà, dans le respect et dans l'émerveillement. La question est de savoir finalement si on est encore capable de s'émerveiller de tout ce qu'on peut déjà faire maintenant. Comme eh ben, tout simplement conduire une voiture, par exemple. Si vous avez le permis, c'est quelque chose que vous ne pouviez pas faire en tant qu'enfant. Et puis aussi se reconnecter avec tout ce dont on avait soif de savoir-faire, ou tout ce qu'on rêvait d'avoir le pouvoir de faire en étant adulte. En tout cas, vous trouverez sur la page de cet audio un questionnaire pour faire le point sur tous ces thèmes, sur tout ça. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à y répondre par écrit. Vous allez voir que ça va vous permettre d'éclaircir de nombreuses choses, de savoir où vous en êtes et de pouvoir, eh bien, tout simplement commencer à récupérer certains pouvoirs que vous n'avez peut-être plus, à reprendre totalement les responsabilités de votre vie, comme le mois de mars nous invite à le faire. Voilà, je suis très très heureuse que vous ayez écouté cet audio jusqu'au bout. Je vous remercie énormément. Merci, merci beaucoup. N'hésitez pas à venir sur le groupe Facebook pour poser toutes les questions ou les choses qui vous paraissent un petit peu trop, pas assez claires en tout cas, dans tout ce que j'ai développé. Voilà, c'est un thème, vous l'aurez vu, hein, vous l'avez lu, qui est particulièrement fort en ce mois de mars vis-à-vis de l'actualité, parce qu'on nous demande vraiment de prendre nos responsabilités. Et j'espère que nous serons tous suffisamment intelligents pour le faire dans le respect des autres. C'est une leçon très très importante qui nous est apportée. En synchronicité, peut-être un petit peu morbide, mais voilà, autant le voir comme une leçon de vie. Et je vous remercie encore d'être dans cet atelier, d'être parmi nous, parce que du coup, c'est voilà, j'avais déjà travaillé, comme je vous le disais, avec les mères originelles, mais là maintenant, en transmission, tout prend une dimension vraiment différent, tout s'éclaircit encore plus et je comprends la profondeur de beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles choses et je vous remercie du coup de faire partie ben, de finalement du changement, de faire partie de ces mères de la vérité pour ben, tout simplement pour le monde et pour apporter beaucoup de sagesse autour de vous. Encore merci beaucoup et puis du coup, bah, à bientôt pour la suite. Ciao!